Et vous, est-ce que vous avez donc déjà entendu parler du syndrome de l'imposteur? Donc ce syndrome qui est une manifestation d'une faible estime de soi, eh bien ce sont ces personnes qui ont le sentiment que leurs réussites ne sont jamais dues à leur propre mérite. Et ceux qui souffrent de cette dépréciation chronique d'eux-mêmes sont en général à la recherche de reconnaissance externe pour se construire leur propre opinion sur eux. On les trouve donc en particulier dans le contexte de la vie professionnelle, mais pas seulement. Le syndrome de l'imposteur, c'est donc le dossier de la tête au carré dans un instant. Avec mes invités, psychologues, cliniciens, et j'attends dès maintenant vos questions et bien sûr vos témoignages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. À la une de la science, un bouleversement pour nos bactéries. Des scientifiques, Axel Villard, viennent en effet de revoir à la baisse leur nombre dans le corps humain.
Et oui Mathieu, parce que vous avez tous déjà entendu dire quelque part qu'il y aurait 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines dans notre corps. Oubliez ce chiffre, une nouvelle estimation bien plus précise indique qu'il y en aurait tout autant. On fait le point dans un instant à la une.
Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission avec toutes ces bactéries. Émission préparée par Lucie Sarfati avec Carole Sauvage.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Le syndrome de l'imposteur, c'est donc le dossier de l'émission dans quelques instants avec mes invités, les psychologues Kevin Chassangre et Stacy Callahan. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue Kevin Chassangre. Ce terme de syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est quelque chose de récent dans le champ de la psychologie? Parce que personnellement, je n'en avais jamais entendu parler.
Alors récent, on va dire qu'aux États-Unis, vous en entendez parler depuis les années 1978. Mmh. En France, par contre, c'est relativement peu connu.
Ouais. C'est un champ d'étude donc maintenant pour vous?
Et maintenant pour moi, oui, ça depuis maintenant 5 ans, 6 même.
Donc ça débarque en France et visiblement ça concerne beaucoup de monde.
Et ça concerne beaucoup de personnes, oui.
Stacy Callahan, ces personnes qui se déprécient justement et qui pensent qu'elles ne méritent pas leur réussite, elles sont très nombreuses dans notre société. On peut les évaluer ou c'est compliqué à faire?
Non, on peut les évaluer. Il y a des questionnaires qui existent et effectivement, ils sont relativement nombreux, faciles à trouver une fois qu'ils en parlent. Mais le problème est justement là.
C'est ça. C'est un domaine qui vous intéresse à titre personnel apparemment. Hein. On en parlera avec vous. Dans quelques instants, d'où l'objet de ce livre que vous avez eu tout à fait raison d'écrire, Le syndrome de l'imposteur, aux éditions Dunod. Donc on va se retrouver dans quelques instants avec messages et témoignages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de La Tête au Carré. Et c'est une question de gros chiffres aujourd'hui à la une de la science. Combien de bactéries réellement dans notre corps humain?
Notre corps humain, par exemple, est constitué de environ 10 000 milliards de cellules. Mais on a en fait en nous 100 000 milliards de bactéries, donc 10 fois plus de bactéries que de nos propres cellules.
Alors, on estime qu'un corps humain contient 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines, c'est donner une idée de l'importance du rôle des bactéries dans notre santé.
Eh bien Alice, notre corps contient des centaines de milliers de milliards de bactéries, 10 fois plus que nos cellules.
On a 100 fois plus de bactéries qu'on a de cellules.
Qui sont 100 fois plus de bactéries que de cellules humaines.
Et voilà, et bien tout ça est archi faux selon des chercheurs israéliens et canadiens qui se sont penchés justement très sérieusement sur la question. Ils affirment donc qu'aujourd'hui, il y aurait quasiment autant de bactéries que de cellules dans notre corps. Bonjour Joël Doré.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste, directeur de recherche à l'INRA, chef de l'unité Métagénopolis. Qu'est-ce que c'est Métagénopolis?
Ah, c'est un démonstrateur pré-industriel financé dans le cadre des investissements d'avenir de l'État. Et c'est pour l'INRA une unité de service qui met à disposition les outils de la caractérisation du microbiote intestinal pour les cliniciens et pour les académiques.
Alors d'où venait cette estimation que l'on entendait partout, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre avec différents intervenants, et qui affirmait donc qu'il y avait 10 fois plus de bactéries que de cellules humaines?
Bon, c'est un travail qui date de 1977 et qui vient d'un chercheur américain, Dwayne Savage, qui travaillait dans l'Illinois et qui avait fait ce calcul du nombre de bactéries présentes, honnêtement, dans la partie la plus distale de l'intestin humain, là où les populations sont vraiment très denses. Et il avait calculé que pour à peu près 1 kg de contenu et environ 10 milliards de bactéries par gramme de contenu, ben, on avait à peu près 100 000 milliards de bactéries dans ce compartiment intestinal très peuplé, par rapport à ce qui était connu à l'époque, 10 000 milliards de cellules humaines dans le corps humain. Et donc le ratio était de 1 pour 10.
Donc ça c'était un acquis, hein. Le chiffre n'avait pas changé du tout depuis l'époque.
Il était quand même bien pratique ce chiffre pour montrer l'importance du microbiote intestinal. Est-ce que la nouvelle estimation change quelque chose pour vous qui l'étudiez?
Elle change très peu de choses. Et si ce n'est que c'est intéressant de toute façon dans le domaine de la science de remettre en question continuellement les observations. Et là, c'est vrai qu'on avait vécu sur ces calculs comme un petit peu un dogme au fil des années et c'était repris régulièrement. Ce qui est montré aujourd'hui par le travail de Fuchs et Milo, c'est que finalement, il y a probablement deux fois moins de bactéries intestinales que ce qu'on pensait, et probablement cinq fois plus de cellules dans le corps humain si on prend en compte des cellules qui sont dans la moelle osseuse et qui nourrissent les tissus sanguins en fait de l'homme. Et donc finalement ces petites ce raffinement de calcul conduit à un peu de modifications de part et d'autre, mais par contre quelque chose qui nous dit l'homme est à peu près à part égale des cellules humaines et des bactéries.
Donc une cellule pour une bactérie, ça fait combien de bactéries dans le corps humain ?
Ah oui, alors on prend les calculettes.
Ça fait toujours pas loin de 100 000 milliards, en fait probablement 40 000 milliards à peu près.
Ouais, donc ça fait combien de grammes ? On est à 1 kilo à peu près ou un peu plus ?
À peu près 1 kilo de contenu, et le chiffre ne parle pas forcément beaucoup, mais dans 1 gramme de contenu intestinal ou de cellules humaines, en fait, hein, on a 10 000 milliards. De bactéries, et ça correspond au nombre de cellules qu'on a chacun de nous à peu près dans notre cerveau, pour une image comparative.
Pour parler de notre symbiose avec les bactéries, le chiffre est quand même bien pratique, une pour une.
Le point important, c'est effectivement la symbiose, en fait. L'homme, dès le moment de la naissance, découvre le monde microbien, et l'intestin, alors qu'il est stérile, en fait, au moment de la naissance, et un écosystème qui va être très rapidement et très densément colonisé par les micro-organismes que l'on rencontre, en grande partie venant de la maman à la naissance. Et cette symbiose-là, elle est tellement intime que le système immunitaire de l'homme reconnaît l'ensemble des cellules du corps humain comme faisant partie du soi, donc ne réagit pas contre ces cellules-là. Et de la même façon, il va apprendre à reconnaître au cours des premiers mois de la vie le microbiote intestinal de l'individu comme faisant partie du soi.
Comment se fait-il que
cette reconnaissance, en fait, il y a une pathologie.
Ouais, comment se fait-il que personne n'ait remis en cause ce chiffre depuis maintenant 40 ans ? C'est la difficulté justement de se prêter à ce type de calcul ?
Alors c'est une question difficile. Je ne peux pas dire pourquoi vraiment ça n'a pas été remis en question. Je pense que peut-être la raison est que on est sur un terrain où il faut à la fois une compétence et une expertise fine du côté microbiote et du côté humain, biologie cellulaire, et peut-être que voilà, ça avait été visité par un microbiologiste dans les années 70, c'est visité aujourd'hui plutôt par des biologistes cellulaires, en fait, et on voit bien que les révisions de part et d'autre, elles sont pas énormes en proportion, en fait. Et par contre, bon, ça conduit à cette idée de 1 pour 1, qui ne change pas grand-chose par rapport à la symbiose qu'on évoquait entre l'homme et ses bactéries, et entre le fait que la symbiose, c'est avant tout l'interaction entre un microbiote qui est vraiment bénéfique pour l'homme, finalement, et l'ensemble des cellules et tissus de l'organisme.
Donc ça veut dire qu'il va falloir voir tous les manuels de microbiologie, là, Joël Doré, ça va faire du boulot pour les éditeurs, hein, parce qu'il faut revoir les chiffres complètement.
Il va falloir que les scientifiques qui avaient l'habitude de s'asseoir sur cet argument révisent un petit peu leurs introductions de publication.
En quelle proportion évolue ce chiffre après un traitement antibiotique, par exemple ?
Alors ça, c'est une question importante. En fait, ce qu'on sait du microbiote intestinal, c'est qu'il est il est assez résistant à la modification, et c'est vrai pour le nombre total des bactéries présentes. Elles occupent en fait des niches écologiques et elles occupent un espace. Et quand on prend un antibiotique, ce que l'on a pu mesurer, c'est une petite diminution du total de bactéries présentes. Vraisemblablement une forte diminution des bactéries sensibles à l'antibiotique, mais simplement la place est réoccupée par des bactéries qui sont résistantes. Et donc globalement, le niveau de population change assez peu en cas d'un traitement antibiotique unique. Et on a même pu montrer dans nos travaux avec des collègues de l'Institut de Recherche Médicale de l'Inserm en France qu'il y a finalement une reconstruction de l'écosystème en termes de diversité dans un mois à peu près après un traitement antibiotique. Donc il y a ce qu'on appelle une résilience de l'écosystème. Donc une faible modification. Il y a des travaux américains sur des modèles animaux qui montrent que par contre, si on a des traitements antibiotiques chroniques répétés, comme on les connaît en fait chez l'homme, hein, parce que dans les pays modernes aujourd'hui, en moyenne, on a un cours d'antibiotiques par an jusqu'à l'âge de 17 ou 18 ans. Et donc, quand on est dans ces conditions de traitement chronique, il est possible que l'on perde un peu de diversité. Le niveau de population totale ne va pas changer ou assez peu, mais par contre la diversité d'espèces va pouvoir être un peu diminuée. Donc on a un appauvrissement finalement de la diversité des microbes intestinales.
Et est-ce que deux êtres humains peuvent avoir un nombre très différent de bactéries ?
Très différent non, parce que finalement c'est la chimie et la physique de l'espace qui est à disposition et les substrats qui sont présents pour les bactéries qui déterminent le nombre des micro-organismes qui vont occuper cet espace. Et donc ça varie très peu d'un individu à l'autre. Donc quand on a eu des données comparatives entre individus, on a des variations entre individus qui sont faibles. Plus faibles que ce que l'on voit dans le cas de traitements médicamenteux ou d'un traitement antibiotique, par exemple.
Justement, Joël Doré, avec ces traitements antibiotiques, qu'est-ce qu'on perd exactement quand vous parlez de cette population bactérienne ? Quels peuvent être les effets à moyen ou long terme, pour le coup, pour l'organisme ?
Le paramètre principal, c'est une perte de diversité d'espèces dans la dominance du microbiote. Et on a associé une même perte de diversité du microbiote avec les grandes maladies de société moderne. En fait, ces maladies qui sont non transmissibles, qui ne sont pas liées à une bactérie pathogène, par exemple, mais qui sont très importantes dans nos sociétés. C'est le cas des maladies métaboliques, comme l'obésité, le diabète, inflammatoires, comme la maladie Crohn, la rectocolite, par exemple. Et on a même des suspicions sur le fait que ce soit vrai aussi dans le cas de maladies neuropsychiatriques ou neurodégénératives.
À suivre donc, hein. Il y a beaucoup de choses à explorer évidemment dans ce domaine. Voilà donc facteur 1 pour 1, on va dire, entre cellules et bactéries.
On essaye de retenir 39 000 milliards.
Voilà, allez. C'est ce qu'il faut retenir, c'est un chiffre important et qui change la donne maintenant. Merci beaucoup Joël Doré, vous êtes microbiologiste et directeur de recherche à l'INRA. Merci
demain,
à vous.
Mathieu.
Merci Axel, à demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, eh bien c'est une première mondiale, elle est française. Une ablation du sein a été réalisée à l'aide d'un robot par l'Institut Gustave Roussy, et ce sans laisser de cicatrices sur le mamelon ou l'aréole. Cette opération permet en effet de pratiquer une incision très fine sous l'aisselle pour retirer la glande mammaire, puis d'installer simultanément la prothèse. Une alternative plus esthétique et moins traumatisante pour les patientes qui peuvent souffrir d'une altération de leur image suite à une opération classique. Les ondes gravitationnelles ont-elles enfin été découvertes ? Une nouvelle rumeur sur leur captation par le détecteur LIGO agite la toile à la suite d'un tweet enthousiaste du cosmologiste américain Lawrence Krauss. Si l'homme dit vrai, cette découverte des traces visibles des plus anciennes du Big Bang viendrait consolider la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein et ouvrirait une nouvelle fenêtre sur l'univers. Pour le moment, les données récoltées n'ont pas encore été officiellement analysées. Prudence donc, avant de crier victoire et de s'emballer sur la toile. Et puis l'autisme se cacherait dans un pli du cerveau. Des chercheurs du CNRS ont identifié un repli moins profond au niveau de l'aire cérébrale de Broca, une région impliquée dans le langage et la communication chez les personnes atteintes d'autisme. Ils ont mesuré par IRM la profondeur des sillons du cortex cérébral de 102 enfants âgés de 2 à 10 ans. Cette découverte suscite bien des espoirs, l'anomalie pouvant être détectée par IRM dès l'âge de 2 ans. Le diagnostic et la prise en charge précoce des patients autistes en seraient ainsi facilités. Allez, le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que c'est que ça ? Bien, vous allez le savoir dans un instant.
Quand les bouteilles de gin ont leur goulot rouillé, quand l'odeur des cuisines transperce les sommiers, brille l'œil de l'iguane, pâle plafond. Hey là-haut, exactement, c'est comment la mort, ou pourquoi la mort ? Quand le ventilo tranche l'air désoxygéné, dehors se coule la cendre sur le cuir des palmiers, le canon du brownie sur l'oreiller. Hey là-haut, dis-moi comment, c'est déjà la mort, ici c'est la mort, au-dessous du volcan. En somme, tu ignores comment, au-dessous du volcan. Viendra, je rentre sur le cratère. Qu'a fait l'homme de l'acier sur sa belle moustiquaire? Et les bouteilles brisées, qui va payer? Hey, down there, exactement,
la mort. Oh, combien la mort. Puis c'est signé en trois fois, trois temps sur les tessons. Le tequila Maria, elle me trace son patron. Car dans l'œil de l'iguane, plus rien ne plane. Hey down there, dis-moi comment. C'était déjà la mort. Ici c'est la mort. Au-dessous du volcan. Ensemble tu ignores comment. Au-dessous du volcan. Mourir sans croire au néant. Au-dessous du volcan. Au-dessous du volcan. Au-dessous du volcan. Ensemble tu ignores comment. Au-dessous du volcan. Mourir sans croire au néant. Au-dessous du volcan. Au-dessous du volcan.
Sous le volcan, et c'est Arcadin sur France Inter.
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
À la découverte cet après-midi du syndrome de l'imposteur dans l'émission, syndrome caractérisé donc par des personnes qui souffrent d'un manque d'estime d'elles-mêmes, en particulier dans la vie professionnelle, mais pas seulement. On va en parler avec vous, Kevin Chassang et Stacey Callahan. Vous êtes psychologue clinicien. Kevin Chassang, vous êtes chargé de cours à l'université Toulouse Jean Jaurès, et Stacey Callahan, vous êtes professeur de psychologie clinique et psychopathologie, toujours à Toulouse Jean Jaurès. Et vous publiez ensemble le syndrome de l'imposteur, traiter la dépréciation de soi, publié aux éditions d'Uno, et nous avons déjà des messages, vous en doutez, hein, et des témoignages d'auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Kevin Chassang, on le disait tout à l'heure, donc syndrome qui a été identifié pour la première fois en 1978. Comment, oui, vous, est-ce que vous avez été amené à vous y intéresser? Allez, allongez-vous sur le divan, on va faire l'inverse, on va allonger le psychologue sur le divan.
En fait, tout a commencé à ma quatrième année d'études, où justement à cette année-là, on est censé trouver un thème de recherche. Pour son mémoire de recherche, et donc on est censé justement aller voir les enseignants-chercheurs et leur proposer de bien vouloir travailler avec nous.
Ouais.
Et dans cette longue recherche, je suis tombé par hasard, vraiment par hasard, du coup le hasard fait bien les choses, sur un article qui parlait du syndrome de l'imposteur, et le choc, je me suis dit waouh, je suis complètement concerné. Mm-hmm. Et du coup j'ai voulu proposer à Stacey de travailler dessus, et... Et depuis, ouais, ça fonctionne.
Alors, Stacey Callahan, on va l'entendre un petit peu à votre accent. Hein.
Oui.
Vous êtes américaine d'origine.
Oui, c'est ça.
Vous aviez déjà entendu parler, donc, là-bas, aux États-Unis, de ce
Effectivement,
syndrome?
Effectivement, c'était très, très à l'actualité quand j'étais étudiante aux États-Unis.
C'est vrai?
Donc, on en avait parlé, ouais, et puis tout le monde connaissait un petit peu. C'est pas forcément ce qu'on va classifier comme une psychopathologie, parce que c'est un syndrome, c'est pas quelque, ouais, chose qui va interrompre de manière massive la vie de quelqu'un. Mais pour revenir sur ce qu'il a dit, Kevin, quand il m'a proposé ce projet, c'était pas dans mes thèmes de recherche,
ouais,
mais ce qu'il a ajouté, c'était très intéressant, c'était de l'étudier avec une notion qui s'appelle l'affirmation de soi, la capacité de s'affirmer et communiquer avec non-violence, et voir si ce serait peut-être un moyen de traitement. Et ouais, c'est là où il m'a capté vraiment avec ce projet.
Uh-huh. Et alors, à titre personnel, on peut le dire aussi, ça vous intéressait aussi au premier chef, hein?
Oui, ça m'a beaucoup intéressé. Je m'étais dit, oui, c'est très intéressant, mais il y a eu un moment clé pour moi par la suite, parce, ouais, que la plupart d'articles sont écrits en anglais. Et Kevin m'a demandé de temps en temps de l'aide pour comprendre ce que c'était.
Et traduire un petit peu, oui.
Et puis, il y avait une partie sur les origines. Oui, parler de constellation familiale. Mm-hmm. Et je me suis retrouvée dans la constellation familiale. Je me suis dit, ah ben tiens, c'est pour ça que je ressens comme ça, parce que dans ma famille, il y avait ça, ça et ça.
Ouais.
Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous affecte. Et comme vous avez dit, je pense au début à différents moments de la vie. Et...
Ouais.
Pour différentes raisons.
En tout cas, un syndrome qui a l'air hyper concernant. Vous avez vu, on s'est amusé avec les gens de l'équipe ou ceux qui passaient en studio et qui, oui, nous posaient la question de savoir de quoi on allait parler cet après-midi dans l'émission. Et tout le monde dit, ah bah tiens, ça me concerne aussi.
Généralement, oui. Beaucoup de personnes se sentent concernées. Après, il faut différencier vraiment le vrai syndrome de l'imposteur du doute qu'on peut avoir, ouais, vis-à-vis de soi ou vis-à-vis de ses capacités. Dans le syndrome, il y a vraiment C'est un syndrome, donc il y a des symptômes à prendre en compte.
Ouais.
Et du coup, il faut bien prendre en compte tous ces symptômes pour pouvoir parler du syndrome de l'imposteur.
Alors oui, parce qu'il faut s'arrêter sur le terme. Hein, parce qu'effectivement, on peut mal l'interpréter au prime abord. Syndrome de l'imposteur, parce qu'un imposteur, dans sa définition habituelle, c'est quelqu'un qui trompe les autres, plutôt pas lui-même. Hein.
Oui. Et en fait, il y a plusieurs... depuis que ce syndrome a été identifié, il y a plusieurs appellations. On peut l'appeler... au début, c'était phénomène de l'imposteur, parce que c'était quand même quelque chose de plutôt diffus. On a pu parler de sentiment de fraude perçu. Donc là, c'est vraiment cette perception
c'est
de soi.
Ça,
donc,
ouais.
Donc voilà. Et on a parlé de complexe d'imposture aussi, mais du coup, c'était pas non plus super représentatif. Nous, on a choisi syndrome de l'imposteur, puisque même maintenant, aux États-Unis, on parle de... Enfin, on le traduit... Imposteur syndrome, mais parce que justement aussi on considère ça regroupe un certain nombre de symptômes qu'on peut identifier.
Donc ce sont les personnes elles-mêmes qui se considèrent comme des imposteurs.
Exactement. Et en ajoutant à ces symptômes, on a des cycles de comportement, des attitudes, des manières de faire les choses qui ne sont pas forcément optimales.
Ouais, on va les décrire ensemble dans un instant. Il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Nushenki sur Twitter nous demande aussi ceci. Est-ce que ceux qui sont concernés par ce syndrome sont plus souvent des femmes ou des personnes issues de classes populaires ayant connu une soudaine ascension sociale? Alors, on va essayer de brosser le portrait type un petit peu. C'est compliqué parce qu'il a plusieurs facettes, évidemment, ce personnage. Mais quand même, il y a des grands traits qui se dégagent.
Alors du coup, ça concerne déjà les hommes et les femmes. Au départ, c'était surtout les femmes, puisque effectivement, quand ça a été découvert, il y avait, comme on en avait parlé avec Stacy, un grand mouvement féministe. Enfin, les femmes commençaient justement à accéder à l'emploi et au regard des stéréotypes, c'était pas forcément évident pour elles. Aujourd'hui, on considère que les femmes et les hommes peuvent être également concernés. Ça concerne.
On a une estimation à peu près des.
Grosso modo,
concernées par le syndrome.
Grosso modo, on va considérer que 70% de la population va pouvoir douter, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, de la légitimité de son statut ou de sa situation actuelle. Et après, en fonction des études, à chaque fois dans les recherches, on mesure entre... Donc les recherches, en général, il y a entre 200 et 400 participants.
Ouais.
Et à chaque fois, on mesure entre 30 et 40% de personnes qui présentent ce syndrome de l'imposteur.
Ouais.
Donc c'est quand même relativement fréquent, relativement connu.
Alors, c'est Stacy Callahan sur le milieu social justement de ces personnes. Est-ce qu'il est très varié là aussi? Il n'y a pas forcément de...
Étant donné que ça touche tellement de populations, je pense que c'est très varié. Mais effectivement, quelqu'un qui va accéder à un niveau, un statut de plus en plus important, à mon avis, serait plus touché forcément que quelqu'un qui ne serait pas forcément dans cette situation. Cela étant dit, on peut se sentir imposteur en tant que mère, en tant que père, en tant que plein de différents rôles dans la vie.
Et en tant qu'enfant ou adolescent également. On va écouter l'extrait d'une fiction. C'est un projet justement qui a été fait en 2013 par des jeunes et pour des jeunes et qui vise à mener une réflexion sur l'estime de soi à travers trois courtes fictions, Les reflets de l'amour, La mise à l'écart et L'amitié contre un jeu. Estime de soi, extrait justement de cette fiction.
Amina, elle me plaît cette fille. Elle est belle, attirante, charmante, différente des autres, mais elle me paraît distante.
Comme je suis moche, enfin, comme d'habitude, je suis laide, toute fripée, je suis nulle.
Elle est belle, attirante, charmante, différente des autres. Je n'oserais jamais l'aborder. Elle me plaît. Mais est-ce que moi, je peux lui plaire?
J'en ai marre de tous ces boutons. Si seulement je pouvais ressembler à toutes celles qui posent dans les magazines. Elles sont parfaites. Elles ont un visage parfait.
Alors, on voit bien le problème de l'estime de soi dans cet extrait. Mais est-ce que pour autant, Stacy Callahan et Kevin Chassang, on est dans une description du syndrome de l'imposteur dans l'extrait précis qu'on vient d'entendre avec ces adolescents? Je crois pas, hein.
Je l'entends pas trop. Et effectivement, c'est une terme que vous employez et je vais proposer un autre terme que je préfère utiliser à la place d'estime de soi parce que c'est un terme qui a été très vulgarisé depuis une cinquantaine d'années. C'est l'acceptation inconditionnelle de soi. On a entendu cette jeune fille dire si je pouvais plaire comme les filles dans les magazines, les revues, etc. S'accepter inconditionnellement, C'est ce qu'on dit souvent pour l'estime de soi, alors que l'estime de soi, c'est un terme scientifique qui veut dire ma valeur est fixée sur ma performance. Alors, l'acceptation, c'est que quoi que je fasse, je m'accepte. Je peux faire mieux, j'aurais pu faire mieux, mais en général, je m'accepte. Et c'est là où on va toucher vraiment des éléments d'imposteur. Mais là, on a entendu effectivement cette histoire de s'accepter ou de ne pas s'accepter dans,
ouais, Kevin,
dans
son état.
Mais après, ouais, dans ce passage, dans le syndrome de l'imposteur, il faut noter justement il y a certes cette faible estime de soi, mais en même temps ce côté où on va dénigrer constamment ses compétences, à avoir l'impression vraiment de tromper son entourage ou d'être surestimé, et avoir peur du coup d'être démasqué. Donc je suis pas vraiment sûr qu'on retrouve ça dans l'extrait qu'on a choisi.
C'était pour nuancer justement et pour expliquer ce que n'est pas justement ce syndrome de l'imposteur, même si on est dans une périphérie avec cette affaire d'estime de soi. Sonia nous dit ceci: je suis tapissière d'ameublement, j'ai pas reçu de formation spécifique, on peut dire que je suis une autodidacte, mon travail est reconnu, j'ai pas mal de travail, ma meilleure pub reste le bouche à l'oreille, mais j'ai néanmoins toujours cette impression que je prends la place de quelqu'un de plus diplômé que moi, voire de plus compétent, et ça me bloque très certainement dans le développement de ma petite entreprise. Alors là, pour le coup,
on
y est vraiment. Un commentaire sur ce témoignage de Sonia?
Souvent, c'est le cas. Les gens qui n'ont pas des diplômes, qui sont très, très habiles et capables, ne sont pas à leur place. Ils n'ont pas l'impression de pouvoir faire le travail qu'ils peuvent facilement faire, et c'est dommage.
Parce alors qu'elle se sait compétente en même temps.
Oui, et
alors
puis elle a les retours en plus.
Absolument.
Elle a les retours et
ça ne suffit pas.
Non, et
ça
elle ne peut pas accepter ses retours.
Non, puisque dans le syndrome de l'imposteur, c'est vraiment ce principe de considérer déjà d'une qu'on n'a pas réussi, qu'on n'a pas forcément le droit de réussir, et il y a une énorme difficulté à pouvoir recevoir justement ces signes de reconnaissance ou ces compliments, puisque il y a pas mal après de cognitions dysfonctionnelles derrière. Enfin, si j'accepte justement que j'ai réussi, est-ce que ça va me porter malheur? Ou si j'accepte que j'ai réussi, est-ce que finalement je vais échouer? Les gens vont se rendre compte qu'en fait je suis pas aussi compétent que ça. Donc il y a pas mal d'éléments.
Et Sophie, elle parle aussi de l'idée de prendre la place de quelqu'un d'autre.
Qui serait plus légitime parce que plus diplômé.
Oui.
Mais
et
le diplôme ne fait pas le talent. Exactement.
Ouais.
Allez, on va remonter le moral des troupes cet après-midi avec vous. Il y a beaucoup de messages qui arrivent et de témoignages, bien sûr, franceinter.fr et puis également les messages courts sur Twitter.
Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a man, he came from my hometown. He wore his passion for his woman like a thorny crown. He said, Dolores, I live in fear. My love for you is so overpowering, I'm afraid that I will disappear. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. I know a woman became a wife. These are the very words she uses to describe her life. She said a good day ain't got no rain. She said a bad day's when I lie in bed and think of things that might have been. Slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away. And I know a father who had a son. He longed to tell him all the reasons for the things he'd done. He came a long way just to explain. He
kissed his boy as he lay sleeping. Then he turned around and headed home again. His slip sliding, slip sliding away, slip sliding away. You know the nearer your destination, the more you slip sliding away.
Slip Sliding Away avec Paul Simon et Thierry Dupin qui signent la programmation musicale de notre Tête au Carré autour du syndrome de l'imposteur. Cet après-midi, Kevin Chassangre et Stacy Callahan sont mes invités, psychologues cliniciens tous les deux à Toulouse. Vous publiez le syndrome de l'imposteur, traiter la dépréciation de soi chez Duno. C'est dans la collection Les Ateliers du Praticien, Kevin Chassangre. Donc c'est plutôt un ouvrage destiné aux professionnels, mais quand même, vous avez fait un effort de clarté, donc tout le monde peut le lire.
Oui.
Hein, on peut le préciser. Hein.
Toute personne qui peut être intéressé par ce syndrome, que ce soit effectivement les praticiens de santé, mais en même temps aussi coach ou autre, et les personnes aussi plus qui sont moins du coup dans ce domaine-là, puisqu'on a voulu vraiment faire quelque chose qui soit compréhensible par le plus grand nombre, puisque ce syndrome étant peu connu encore à l'heure actuelle, au moins ça permet de diffuser un petit peu la formation.
Voilà, peu connu mais assez concernant. Stacy Callahan, comme on le disait tout à l'heure, on a tous autour de nous des personnes qui se sentent justement des imposteurs. On poursuit un peu la description, hein, le profil justement de ces personnes, Kevin Chassangre, qui au fond n'ont jamais le sentiment d'être à leur place.
C'est
et
ça,
qui ont peur d'être démasqués aussi. Mmh. Hein.
C'est exactement ça, avec, comme on en parlait tout à l'heure, cette idée de pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre, puisque ces personnes-là ont vraiment l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre, d'être surestimé, ou de pas en tout cas être estimé à leur juste valeur, puisque elles, justement, elles se voient comme des personnes incompétentes. L'idée, c'est que elles vont attribuer leur situation actuelle ou leur réussite par des causes qu'on appelle, par des causes externes, c'est le processus d'attribution, où elles vont considérer qu'elles sont surtout là, parce qu'elles ont eu de la chance, ça a été le hasard, les relations ont joué, mais en fin de compte, c'est pas vraiment grâce à ses propres compétences. Donc, il y a vraiment cet auto-dénigrement, et donc, de fil en aiguille, cette peur profonde, cette anxiété qui est l'un des éléments les plus importants dans le syndrome de l'imposteur, c'est cette peur d'être démasqué, justement, accusé d'imposteur un grand jour. Un jour.
Et puis, Stacy Callahan, ce sont donc des personnes qui n'arrivent pas à s'attribuer les causes réelles de leur réussite, quoi.
Non, effectivement, ils n'arrivent pas à intégrer, va dire, la capacité à réussir, à franchir. Et on a parlé tout à l'heure de cette notion de cycle, parce qu'il y a des manières de travailler chez les gens qui souffrent, où ils vont soit procrastiner, soit rentrer dans un travail frénétique, soit les deux. Et puis après, avec ces différentes modalités, le résultat sera bon. Et les gens vont leur dire, c'est génial. Ouais. Mais dans leur tête, ils vont dire, mais j'ai mal travaillé. Ouais. Donc,
vous êtes de quel côté, vous, Stacy Callahan? Vous procrastinez
je suis
ou au contraire?
Procrastinateur. Et Kevin?
Plus dans le travail frénétique.
C'est ça. Donc, c'est exactement le contraire, pour les mêmes effets. Hein.
Pour les mêmes effets, puisque du coup, après, le fait de procrastiner, justement, on a tendance à attribuer sa réussite au fait qu'on a eu de la chance.
C'est
ça. On a travaillé
ou que Kevin a fait tout le travail pour moi. Mais c'est vrai, on s'est rendu compte en travaillant sur le bouquin. Kevin, il a foncé tout de suite et moi, je resté là en disant bon.
Ah, c'est une question justement que je voulais vous poser, puisque vous êtes tous les deux aussi victimes, je ne sais pas comment on peut dire, de ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous sentez légitime dans l'écriture de ce livre? Est-ce que ça vous a posé problème ou pas de publier cet ouvrage? Est-ce que vous êtes beaucoup posé la question de pourquoi est-ce que nous, on pourrait le faire? Vous rendez compte, écrire un livre quand même, aller à la radio pour en parler.
Oui, aussi.
Est-ce que vous sentez légitime autour de ce micro ou pas?
Moi, personnellement.
Alors, vous l'êtes totalement, évidemment.
Écoutez, merci, mais personnellement, absolument pas. Quand on m'a proposé d'écrire ce livre, c'était justement suite à une intervention au congrès de l'Association française de thérapie comportementale et cognitive. J'ai dû relire le mail au moins 10 fois pour être sûr de bien comprendre. Tiens, là, on est en train de me proposer d'écrire un livre. Et l'autre jour, c'était, tiens, on me propose de passer à la radio. Mais en même temps, qui suis-je pour parler du syndrome de l'imposteur? Puisque l'ironie du sort, c'est que je me considère être un imposteur. Donc, parler de ça et proposer justement de surmonter ça, c'est quand même assez... assez drôle. Quoi.
Stacey Callahan, de votre côté?
J'utilise plutôt un raisonnement circulaire. Si je suis là, c'est parce que quelqu'un m'a demandé d'être là, donc forcément, j'ai droit d'être là.
Mais il y a des moments... Vous avez fait des efforts déjà, hein. Vous avez avancé.
Donc. Il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je suis là? C'est pas possible.
Quand même. Ouais.
Oui, il y a toujours des moments comme ça dans la vie, ouais. C'est clair.
Bon, est-ce qu'il n'y a pas un peu de fausse modestie parfois aussi chez celui qui est un peu imposteur et qui aimerait bien justement qu'on le rassure en permanence, qu'on le flatte et qu'on lui fasse prendre confiance en lui alors qu'au fond, voilà, il écrit quand même son livre, il vient quand même à la radio.
Alors c'est intéressant. Fausse modestie, il y a effectivement des éléments du fait que le fait d'avoir ce syndrome de l'imposteur, on va chercher un petit peu de réassurance, mais le truc c'est que ces personnes-là qui manifestent ce syndrome, elles sont vraiment convaincues et sûre à 100% qu'en fait, elles ne méritent pas leur situation actuelle, qu'elles ne sont pas du tout compétentes.
C'est
avec cette dichotomie du « je suis complètement nul » ou
c'est pas qu'elles ne sont pas capables de le faire, mais c'est qu'elles ne le méritent pas. La nuance est importante aussi.
Ah oui, elles se sentent incapables surtout.
Oui. C'est si qu'elle a...
Et cette notion de fausse modestie, la modestie fait partie de notre vie. Si on n'est pas modeste, on est trop orgueilleux. C'est pas une bonne chose non plus.
Oui.
Donc, je pense que ça nous pousse plutôt vers la modestie en général.
Même chez les stars, on croise des imposteurs aussi. Vous allez voir, Omar Sy et Charlotte Gainsbourg, qui l'eût cru, c'était à l'époque de la promotion du film Samba.
Plus ça va et plus je me considère comme un acteur. La première fois qu'ils sont venus me chercher, je ne me considérais pas comme un acteur. Aujourd'hui, un peu plus.
Vous êtes débarrassé du syndrome de l'imposteur?
Il est en train de se barrer, il n'est pas loin. Mais je le vois encore.
Il est où là? Il est encore.
Il est par là. Et des fois, il se retourne, il me regarde. Mais il est en train de se barrer.
Moi, le côté imposteur, je l'ai toujours eu et je l'aurai toujours. Parce que il n'y a rien sur lequel je puisse vraiment m'accrocher. Mais ça ne me gêne pas plus que ça. C'est pas de la fausse modestie. Ou, c'est pas ça. C'est juste. Je pense que j'aime bien aussi être. Un peu instable.
Vous savez, en 10 ans, j'en ai fait des associations. Et vous êtes quand même spécial.
Spécial.
Ça vous faisait quoi de tourner avec Charlotte Gainsbourg?
C'était assez spécial, parce que ça rend nerveux au début, parce que pour moi, c'est une vraie actrice. Donc, est-ce que ça allait être possible de pouvoir travailler ensemble?
Pourquoi Omar vous a facilité la vie sur le plateau? Qu'est-ce qu'il a fait?
Parce que j'avais peur de pas être à la hauteur d'un point de vue comique. J'avais peur de pas savoir improviser dans la comédie, que le tournage allait être très délirant et que j'allais être totalement à côté de la plaque.
Voilà, c'est touchant aussi, hein, ces incertitudes qu'on entend quand même chez ces deux stars du cinéma. Oui. Omar Sy, qui connaissait en plus le terme, hein, visiblement, du syndrome de l'imposteur.
Oui.
Donc chapeau à lui.
Oui.
Et puis Charlotte Gainsbourg aussi, qu'on sent fragile par moments et qui ne se sent pas légitime dans certains rôles qu'elle peut tenir, en tout cas dans certaines formes.
Oui, tout à fait. Mais là aussi, on peut se demander s'il y a une constellation familiale. Est-ce qu'elle se croit pas méritant, justement, à cause de l'héritage qu'elle a eu à partir de ses parents.
Mmh.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit « tu es là parce que tes parents étaient Serge Gainsbourg et Jane Birkin ?» C'est une question que je me pose, mais bon, je rentre pas trop dans l'analyse.
Non, mais l'intéressante, effectivement, est-ce que ces enfants, justement, aussi de monstres de la scène, ne véhiculent pas, s'ils ne traînent pas ces...
Oui,
sentiment d'imposture.
Ouais. Exactement, cette impression n'est pas méritée.
Kevin Chassang.
Du fait de considérer d'être justement là grâce à ses relations et pas forcément grâce à ses compétences, là par exemple en tant qu'acteur.
Jacqueline nous dit, le pire je crois dans ce symptôme est que mes proches ne comprennent pas du tout mes doutes parce qu'objectivement tout me réussit, mais à quel prix? Le jour où j'ai entendu sur votre antenne la description de ce symptôme, je me suis arrêtée net. Enfin j'ai pu mettre un mot sur ce que je vivais, ressentais. Enfin je n'étais plus seule. Je ne dirais pas que nommer mon malaise m'en a guéri, mais il m'a permis de le comprendre et de le prendre en charge.
Oui. Ça, c'est souvent le cas. On avait entendu votre réalisatrice tout à l'heure dire les gens semblent ne pas souffrir. Et je dis, vous serez étonnés combien de gens souffrent sans en parler. On ne dit pas. Et effectivement, tant qu'on n'a pas un terme, on ne peut pas comprendre.
Et c'est intéressant, du coup, dans ce témoignage, le fameux... Tiens, mais tout le monde a été surpris parce qu'effectivement, il y a des évidences objectives de réussite. Mais la personne, elle, dans ses propres perceptions... Elle ne considère pas qu'elle a réussi. Elle a l'impression d'être un imposteur et c'est toute la difficulté justement.
Et pourtant, comme Esmeralda qui ouvre justement votre livre avec son histoire, qui travaille dans une grande multinationale, qui a un rôle et un poste extrêmement important, donc elle a réussi, elle a gravi les échelons et pourtant il y a toujours ce sentiment latent qui traîne, diffus. Ouais. Et...
de se dire que, en fait, ben, pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un, et tout ce que j'ai fait là, mais en fait, je l'ai réussi, mais à quel prix, et puis grâce à quoi? Et donc, justement, mais tiens, à l'heure actuelle, maintenant, est-ce que je suis vraiment compétent, et est-ce que je vais m'en sortir, et plus tard, quand est-ce qu'on va découvrir qu'en fait, non, je ne suis pas compétent.
Quand serais-je démasqué? Oui. Galien sur Facebook, j'ai été ingénieur 6 ans, j'ai démissionné pour des raisons éthiques, mais aussi parce que je ressentais énormément d'angoisse quant à ce sentiment de ne pas mériter ma place, mon diplôme, mes compétences. Je suis ensuite devenu dessinateur artistique, mais j'ai toujours ce sentiment qui m'handicape quant à présenter mon travail et donc à en vivre.
C'est intéressant. Enfin, c'est triste et intéressant dans le sens où on a à la fois ce syndrome qui peut beaucoup se rencontrer, notamment dans le milieu scientifique, mais aussi dans le milieu artiste. On le retrouve dans différents domaines, mais notamment ces deux, il y a des études qui ont pu montrer que ça pouvait effectivement s'y retrouver.
Et quand même, il y a ces angoisses évoquées par Galienne.
Oui, moi, quand j'entends ce témoignage, je pense que là, on touche quelque chose qu'on décrit dans le bouquin. C'est un syndrome, c'est pas un problème pathologique. Et je veux dire, je peux pas diagnostiquer que à partir d'un témoignage. Mais en même temps, on touche un niveau d'anxiété qui est au-delà de quelque chose qui est supportable. Et je pense que celui-là, il souffrait de cette anxiété qui devait être traitée en même temps que peut-être ces sentiments qui maintenaient ce syndrome d'imposture.
Allez, on voit justement comment essayer d'aider les personnes qui sont pour eux des imposteurs avec vos conseils. Et puis ce livre, donc, Le syndrome de l'imposteur chez Duno. On se retrouve après Victor Dem.
Your fun can't be damn, yeah, oh, no, nah. Your fun can't be damn, yeah, oh, no, far. I have to be damn, yeah. Well, I saw it. Fear to my daddy, yeah. Well, I saw it. And it got Buboni, bangi badanga lipe. Jubu di nyanyi ni, sarakado nyanyi ni de chinyana. Mwa jubu di nyanyi ni de, sarakado nyanyi ni de chinyana. Ni bangi bayi danga do, sarakado danga de na. Alika misika saraka, oje na le danga liubili. Your fuck can't be damn, yeah, oh, no, nah. Your fuck can't be damn, yeah, oh, no, far. Your make a saraka, oh, you nani, danani, fini. Fiki, siki, so. Kibangi, badu, dani. Fiki, nyongiri, de. Kisoro, badu,
à faquer Victor Dem sur France Inter.
La tête carrée sur France Inter.
Stacy Callahan et Kevin Chassangre, donc psychologue clinicien pour le syndrome de l'imposteur paru chez Duno, et le nombre de messages et témoignages est absolument hallucinant sur le site de la Tête au Carré. Visiblement, il y a beaucoup de personnes qui se reconnaissent, qui nous parlent d'elles, qui témoignent. Larry d'abord nous dit ceci: ces personnes sont véritablement victimes, mais de leur lucidité, parce que le syndrome de l'imposteur, qui selon moi touche très peu de gens, n'est que le résultat de la coupable indulgence vis-à-vis des vrais imposteurs du plus grand nombre.
C'est une témoignage intéressant. Je ne sais pas si je comprends exactement. L'idée serait qu'il y a des véritables imposteurs qui
qui usurpe et du coup en face ceux qui présentent le syndrome de l'imposteur.
Enfin, et ceux qui seraient en tout cas la véritable incarnation de l'imposture en tout cas et qui prendraient toute la place. Un commentaire ?
Là, je ne sais pas trop quoi dire. J'avoue que. Mais après, c'est intéressant dans le sens où, personnellement, quand je parle du syndrome de l'imposteur, et ça m'est arrivé une fois, effectivement, quand j'ai posé une question dans le cadre d'une conférence où j'ai dit, mais tiens, c'était sur les risques psychosociaux, où justement, je me disais, mais tiens, ce serait intéressant de considérer le syndrome de l'imposteur pour essayer de prévenir le burn-out ou tout ça. Et la personne qui est intervenue m'a envoyé balader devant 500 personnes dans l'amphi en disant, mais les imposteurs, on s'y intéresse pas. Enfin, donc, comparer imposteur véritable et syndrome de l'imposteur, ça a son sens, mais en même temps, il faut vraiment appuyer le fait que la personne qui manifeste ce syndrome a l'impression d'être un imposteur.
Alors, autre message dont vous aurez peut-être une autre réponse, la lutine en sommeil, c'est sur Twitter. Elle nous dit ceci, est-ce que le syndrome de l'imposteur est uniquement lié au milieu professionnel ou est-ce qu'on peut également le ressentir ailleurs, dans d'autres domaines, comme dans le couple, par exemple ?
Je pense qu'effectivement, c'est possible. Dans le couple, je ne suis pas certaine d'avoir entendu des cas ou des témoignages, mais par exemple les mères qui ne sont pas vraiment des bonnes mères à leur place au niveau de leur capacité à faire tout ce qu'il faut pour leurs enfants, j'imagine ça peut arriver. Il y avait le cas que tu as présenté à l'atelier. Effectivement, cette femme
qui se considérait pas à sa place dans le couple puisqu'elle avait l'impression de d'être surestimée par son mari ou de pas être à son niveau d'exigence.
Parlons science sur Twitter. Alors, comment se déclenche exactement ce syndrome avant de voir comment aider justement les personnes qui en sont victimes? Quelles sont les principales causes? Alors, le milieu familial joue beaucoup?
Je dirais que la principale cause, c'est l'apprentissage. À un moment donné, l'enfant apprend qu'il est dans une situation où il peut être démasqué, où il peut être mal compris. Mmh. Et notre vie sociale est construite sur la comparaison. Donc, le fait de se comparer constamment à ses frères, à ses sœurs, aux camarades à l'école, etc., ça induit le syndrome d'imposteur. C'est difficile parce que souvent, on a tendance, les psys, de mettre le fardeau sur les parents en disant, ouais, c'est parce que les parents étaient comme ça. Ouais.
Vous dites quand même que l'image de soi véhiculée par les parents joue beaucoup aussi.
Ça peut jouer.
Dans la façon dont peut survenir ce syndrome.
Et malgré tout, ça peut être une image positive, mais pas adaptée. Comme nous avons dit tout à l'heure, l'image d'un enfant intellectuel dans la famille comparé à un enfant plus social, l'enfant plus social ne serait pas à sa place lorsqu'il réussit à l'école. Parce qu'il se dit, non, mais c'est pas moi, c'est mon frère qui doit réussir.
Est-ce qu'il pourrait y avoir un déficit de valorisation, justement, des compétences de l'enfant ou de son intelligence par les parents qui, engendrerait ce syndrome?
Ça se retrouve, c'est un des éléments qui peut se retrouver dans l'environnement familial, justement, l'absence de valorisation ou de renforcement par rapport à une intelligence, des compétences ou des choses qui, en plus, pourraient être un petit peu hors norme par rapport à la famille, donc, ou paraître atypique. Et ce qui fait que l'enfant en question n'a pas vraiment intégré le fait qu'effectivement, il est clairement compétent. Intelligent.
Est-ce que ça a à voir avec l'attachement aussi? On a souvent parlé ici de la théorie de l'attachement. Alors, est-ce qu'on peut trouver des liens de parenté entre ce syndrome et les problèmes d'attachement pendant l'enfance?
On a une heure de plus maintenant?
Non, même pas. Il faudra revenir. Mais vous pouvez nous dire quelques mots.
L'attachement, c'est effectivement quelque chose qui est important. L'attachement a plusieurs fonctions. Et très rapidement, une des fonctions de l'attachement, c'est la mise en place de la cognition, la capacité à se comprendre et comprendre autrui. Et cette capacité mise en place très tôt par la relation avec les parents et par la suite avec d'autres relations, ça nous donne une reflet de nous-mêmes. Mmh. Et effectivement, dans ce sens, l'attachement peut avoir un effet.
Donc c'est important d'avoir un bon modèle aussi auprès de soi pour renforcer justement les choses.
Exactement, c'est ce qu'on appelle un modèle interne opérant.
Voilà, un bon terme de psychologie. Dorothée nous dit, je me reconnais totalement dans la description de ce syndrome, j'en étais consciente avant d'entendre votre émission, je ne connaissais pas le nom, mais la vraie question maintenant est, que faire? Alors, comment on aide ces personnes? Vous envoyez souvent d'abord
Alors, quelques-uns, oui. Oui, et le fait de pouvoir...
Qui viennent vous voir spécifiquement pour ça, ou au fond, vous décelez ce problème au travers d'autres symptômes?
Il y a les deux, des personnes qui, quand elles en entendent parler, justement, et c'est ce qui est drôle, puisque Clance, lorsqu'elle a découvert et lorsqu'elle a écrit le livre, enfin son premier livre, il y a un chapitre qui commence par le fait de... tiens, quand je parle du syndrome de l'imposteur, les gens se disent « Ah, mais oui, c'est ça, j'ai ça, ça y est, vous avez pu mettre des mots dessus. » Et donc, justement, les gens vont pouvoir... une fois qu'on en parle, mettre des mots sur leur ressenti, leur souffrance. Et donc, effectivement, moi, il y a des gens qui viennent me voir en me disant « Tiens, je pense que je manifeste ce syndrome. » Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Mais sinon, effectivement, on peut le déceler en fonction du discours du patient, de la personne qui vient. Ce dénigrement des compétences ou l'impression de tromper toujours, cette impression d'inauthenticité. Donc, il y a les deux versants. On peut l'identifier, et c'est intéressant de l'identifier, puisque c'est quand même lié à plein de choses. Anxiété, dépression, stress. Et dans justement ces manifestations, on peut questionner l'existence d'un syndrome de l'imposteur.
Alors, quand vous le décelez, comment vous le prenez en charge justement avec ces personnes?
Et comment on le prend en charge? Il y a différentes choses. À la fois travailler sur le processus d'attribution, donc aider ces personnes à considérer d'autres causes que la chance ou les relations ou juste des causes externes et arriver justement à considérer des causes internes en se basant sur des exemples précis. Avec Stacy, on aime bien tout ce qui touche à la logique, les preuves et la fonctionnalité. Donc, c'est vraiment rechercher les preuves au-delà du filtre du syndrome de l'imposteur, l'épreuve de réussite. Et après, du coup, on travaille justement après sur tout ce qui va être la gestion de la procrastination pour, en fonction du cycle qui est mis en place, tout ce qui va être sur le perfectionnisme aussi, le fait dans l'affirmation de soi de recevoir des compliments. Et après, du coup, il y a tout ce qui touche à l'acceptation inconditionnelle de soi qui nous paraît vraiment super pertinent, quoi.
Stacy Callahan.
Oui, l'acceptation.
Ça fonctionne alors, parce que vous dites que vous êtes toujours un peu avec ce sentiment d'imposteur. On se dit, dites donc, si on n'arrive pas à se soigner, alors ça doit être compliqué quand même.
C'est peut-être quelque chose de bien à garder juste un petit peu quand même. C'est pas néfaste.
Pourquoi?
On parle dans le monde de stress, de bon stress et mauvais stress. Donc il y a peut-être bon imposteur et mauvais imposteur, j'en sais rien. On peut continuer à étudier.
Ça va être pour la poursuite de la recherche,
je pense.
Mais vous en avez l'intuition qu'il faut garder une petite dose quand même.
Peut-être, je crois que le plus important, c'est de travailler l'acceptation inconditionnelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de s'accepter, de savoir qu'on est humain, qu'on peut faire des erreurs et qu'à la limite, la prochaine fois, on va tenter de faire mieux.
Et qu'on doit sa réussite à soi-même. Hein. Donc il y a des causes internes et non pas toujours à regarder dans le regard des autres.
Hein. Au niveau de logique, les preuves dans la réalité.
Sophie nous dit, c'est dingue, on parle de moi sur l'antenne. Je suis illustratrice, je suis incapable d'avoir de l'estime pour mon travail. Je suis la première à descendre mon boulot une fois fini auprès de l'éditeur ou du directeur qui me l'a commandé. Il y a toujours quelque chose qui cloche. Voilà, mais on espère que ça va changer peut-être après cette émission. Anne demande, est-ce que le syndrome de l'imposteur est une façon d'approcher le syndrome de l'échec?
Mais en fait, justement, quand vous avez parlé de ce cas de Sophie, elle dit elle descend elle-même les aspects de ses dessins. Oui. Mais c'est justement pour dire, s'il y a un échec, je l'aurais déjà prévenu. Je sais que ça va m'arriver quelque part, donc ça l'aide à gérer.
Audrey, je suis artiste, beaucoup d'artistes décidément qui nous écrivent. Profession reconnue mais non considérée comme un travail parce que non rémunérée, je vends mais je n'en vis pas, je me sens imposteur face à la société, face à moi-même. Ma question, est-ce que le syndrome se joue là aussi? Est-ce qu'on peut se ressentir imposteur parce qu'on a une profession qui n'en est pas vraiment une?
Oui, puisque ça rejoint tout à l'heure le tiens, je suis compétent dans mon travail, mais en même temps, j'ai pas de diplôme. Là, je travaille dans un environnement qui est pas reconnu. Est-ce que je suis vraiment, du coup, compétent dans ce travail?
Et c'est une question de comparaison avec les autres.
Et de comparaison
avec
les
artistes qui réussissent, et puis on se dit, je suis pas cette personne.
Ouais. Et puis Patrick, aujourd'hui j'ai 50 ans, je suis cadre dirigeant en industrie, m'a fait de nombreuses heures de travail avec mon psy pour accepter qui je suis, pour accepter d'être passé de la ferme familiale au bureau confortable des sièges parisiens, accepter de toucher un gros salaire.
Ça c'est une origine famille très typique, il n'est pas du tout dans le cadre et difficile de s'accepter au niveau de sa famille et lui-même.
Merci à tous les deux.
Merci.
On peut découvrir cet ouvrage aux ateliers du praticien donc chez Duno, le syndrome de l'imposteur, traiter la dépréciation de soi. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui dans La Tête au Carré. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu Vidard.
Dans un instant, Affaires sensibles.
L'histoire du Paris-Dakar et toutes les controverses et polémiques que cette course a pu engendrer aujourd'hui encore. D'ailleurs, on en parle moins, mais bon, il y a encore des accidents là, dernièrement. Et notre invité sera Hubert Auriol, qui en a été le vainqueur 3 fois et qui ensuite a dirigé cette course du Paris-Dakar.
Et ce sera après les infos. Merci, à tout à l'heure.